Plus exactement par rapport à ta quatrième maison. Parce que la lune dans un thème, et maintenant ceci, je dois dire, est formel. J'avance ça d'une façon presque certaine. Dans votre thème, dans un thème, quand vous voulez connaître la mère de l'individu, la mère du natif, il faut chercher toujours la position de la lune. La mère, c'est la lune. Et puis, et par surcroît, et de nécessité, chercher aussi le maître de 4. Pas le maître de 10. La mère est la 4 et le père est la 10. Et moi, je le vois tout le temps, cliniquement, sans histoire. Je ne comprends pas où sont. Comment ont pu jamais penser les astrologues que c'était le contraire? Oh, vous avez tombé une fois ou l'autre sur un texte français qui vous a dit que le père, c'est la 4. Mais vous en avez eu d'autres en français qui vous ont dit le contraire aussi, n'est-ce pas? Comment? C'est pas vrai. Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est péremptoire que je prenne la mère ou le père. La quatrième, c'est la maman. Et que je prenne une femme, la quatrième, c'est sa mère et c'est pas son père. C'est pas vrai ça. Et je vais vous le prouver coup sur coup. J'ai là une pyramide de thèmes et je vais les prendre et sans tirer la chose par les cheveux. C'est formel, mais pensez à la loi même des choses. Ça, c'est comme de dire la part de fortune est différente suivant que vous êtes du sexe féminin ou du sexe masculin. Bon, moi, ben, personne n'a pas compris l'essentiel de la part de fortune. Alors, je reviens à cette chose capitale. Primo, dans un thème, cherchez la mer, vous cherchez la mer. Il faut toujours tenir compte de la lune. Mais je n'ai fait que commencer. Tenir compte de la lune. Elle est la mère. Dans l'être humain, ta lune dans l'être humain représentera toujours un élément de son côté, du côté le plus humainement féminin de sa nature. C'est l'enfant qui appelle sa mère et dépend de sa mère, ou alors qui repousse sa mère. Mais toujours est-il polarisé? Nul être humain peut dire qu'il n'est pas polarisé. Avec ou contre sa mère, ça va de soi. Ça va de soi. Tout être humain a une filiation, et la filiation sous-jacente immédiate, c'est la maman. Alors tout être humain est étroitement uni à cette mère, uni ou discordant, ou en guerre. L'un des deux. Alors voilà justement l'intéressant, c'est que Uranus va venir en main, mais je ne veux pas anticiper. Je reviens sur cette lune. Elle représente la mère, plus tard elle représentera éventuellement la femme. Mais surtout, c'est la mère. Et ensuite, regardez la planète maîtresse de 4. Ensuite, regardez, s'il y a lieu, planète en 4. C'est très subtil cette poursuite de la nature de la mer dans un thème, surtout quand il y a des planètes encore en 4, et surtout quand la lune est affligée ou chargée d'aspect, et que le maître de 4 aussi est chargé d'aspect, et surtout d'affliction. Et alors, on assiste à ce phénomène déroutant, mais évidemment captivant dans sa variété. Par sa variété même, c'est que voilà une maman, voilà un bonhomme, voilà une femme. Vous regardez bonhomme et vous regardez sa lune. Vous voyez cette lune affligée d'une certaine façon. Enfin, l'autre jour, j'en avais une. La lune, c'était une femme. La lune était dans le Capricorne, elle n'était pas maître. C'est cette lune de ce cas-ci. Cette femme a la lune en Capricorne en 1. Je me dis, voilà la mère. Enfance grise. Enfance froide. Avec ça, la quatrième maison, c'était Mars du Bélier. Vous comprenez? Ce n'était pas exactement quelque chose pour réchauffer la maison, ça. Donc la mère représentait ça aussi. Mais elle représentait aussi l'aspect de ce Mars. Or, l'aspect de ce Mars, c'était un carré à un Jupiter dans le Capricorne, en 1. Et voilà pourquoi il se trouve alors que la femme me dit, ma mère était très égocentrique. Elle représentait même l'aspect de première maison. Elle représentait même jusqu'à ce point qu'elle représentait ça. Comme le Jupiter était en première maison, que le Mars était à la pointe de Cap, était maître de Cap, elle faisait carré à ce Jupiter, que la Lune était aussi sans aspect à Mars, dans la première maison et le Capricorne, ça a donné très justement ce tableau d'une maison grise, d'une enfance froide, d'une mère sans aucune sensibilité. En tout cas, pas donnante. Une Lune Capricorne ne donne pas de la sympathie. Elle est défensive, la Lune. Elle est solide, elle fera ce qu'il faut pour l'enfant, à un point, c'est tout. Et encore, faut-il qu'elle soit une bonne Lune. Alors, là, la combinaison jouait, Mars, le maître actuel, et la Lune, le maître naturel. Mais, dans le thème de Madame Sarpisson, c'était la même histoire. La mère était la Lune conjointe Pluton. Ça, c'était final. Mais elle était aussi autre chose, car elle ne commandait pas la quatrième maison du thème. C'était une autre planète qui commandait ça. Ah, oui, c'est ça. Alors, vous voyez bien que c'est un jeu d'échecs ou un jeu d'orgue à plusieurs claviers. Il faut prendre la Lune. Et vous verrez souvent que la planète maîtresse de 4 sera beaucoup plus indicante en surface de la mer que la Lune le sera. Mais vous serez quand même surpris, où que soit la Lune, combien de fois la Lune semble plus dominante encore que la planète maîtresse de 4. C'est très curieux de voir ce jeu-là. Et il va de soi que pour pouvoir déterminer ça avec une mesure de correction, il faut que la personne ait une bonne mémoire, qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit pondérée, que son jugement soit sain, qu'elle parle de sa mère sans réaction émotive, subjective. Il faut aussi qu'elle sache s'exprimer. Et il faut adroitement poser vos questions. Il ne faut pas que vos questions la mènent à une solution, à une réponse qui vous convient à vous. Ah, ça non, ça serait désastreux. Il faut qu'elle... Mais il faut tâter différentes réponses jusqu'à ce que finalement, oui, ça c'est ma mère. Alors on file sur cette piste et on reprend les aspects avec ce jeu-là. Mais je répète, c'est ça. Alors pour le père, toujours Saturne. Dans un thème, quand vous pensez à Saturne, vous pouvez souvent penser au père de la personne, homme ou femme. Et alors, outre ça, le maître du thème actuel, c'est-à-dire le maître de 10. Et le maître de 10. Alors, la combinaison de ces deux, ajustée ensemble, et si par hasard vous avez Saturne en opposition avec le maître actuel de 10, bien vous pouvez être presque certain que dans le père, il y avait une contradiction de nature. Et que si la Lune est en opposition avec le maître actuel de 4, vous pouvez être assez certain que dans la mer, il y avait ce schisme de nature, belligérance d'éléments de sa nature, complexe de la mer. Et alors, outre ça, si vous avez une planète en 4 pour la mer, eh bien, alors vous êtes encore servi. Parce qu'il y a indéniablement ce fait que si la Lune représentera quand même par un certain battement la mer, ce sera les ingrédients principaux, elle représentera, et que la planète maîtresse de 4 sera aussi la mère, mais alors quelquefois il arrive que la planète en 4 est encore plus la mère que la planète de 4. Comment? Je ne parle pas que la Lune est là, alors naturellement ça tombe sous le sens commun. La Lune n'étant pas là, la Lune n'était pas là. Là, naturellement, c'est là où vient l'art de l'interprétation. Ça, c'est uniquement lorsqu'on est rompu à cette pratique d'aller comme ça dans les boyaux des âmes avec des doigts qui sont même gantés de caoutchouc sans toutes les petites granules des entrailles de l'autre. Il faut découvrir cette subtile courbe qui fait que non, c'est pas ainsi que ça va se bâtir, ça se bâtit comme ça. Parce que si vous réalisez ce que c'est que des planètes dans un thème, que leur combinaison, leur structure combinée, et quand on réalise à quel point un être est complexe, quel enchevêtrement de choses dont il est fait, de couches différentes dont il est fait, quand on pense à son atavisme, quand on pense à la part de la mère et du père, sans compter d'autres ancêtres qui prétendent, ou enfin c'est de façon parler, enfin qui prétendent à répondre présents eux-mêmes dans le thème. Il y a des moments, naturellement, nous le voyons dans des cas extrêmes de schizophrénie, où l'on dit, le pauvre diable, il voudrait parler. Quand on lui appelle, il voudrait répondre présent, mais c'est pas lui qui répond présent, c'est sa mère. L'hérédité court si vite que c'est la maman qui répond présente, même quand elle est encore vivante. C'est encore le rayon, la filiation psychique de ce que sa mère représente sur la terre maintenant. Eh ben, mais au-delà de ça, toute la lignée, disons maternelle probablement dit, répond présent. Elle saute devant vous et ce n'est pas lui qui vous parle, ou inversement le père. Ça, c'est des cas extrêmes, naturellement. Des cas extrêmes. Mais combien de fois avez-vous, naturellement, en venant à l'astrologie, vous aiguisez votre sens clinique, vous aiguisez vos moyens de perception, des choses que vous n'avez jamais remarquées auparavant deviennent pour vous évidentes, grossièrement évidentes, à la longue, avec l'astrologie, c'est évident. C'est du saturnisme tout creux, l'astrologie. C'est le filet de Saint-Pierre jeté à droite de la barque, dans la mer de Galilée, il ramasse les poissons et il en ramasse plus même que vous y emportez dans votre barque. C'est une affaire en règle. Et plus vous allez, plus vous faites ce réseau serré, et plus vous le versez à droite, plus vous verrez les poissons que vous ramassez. Et alors, entre autres poissons, c'est poignant de voir des êtres qui ne semblent être guère autre chose que l'arène, la coupe, s'il vous plaît, dans laquelle se barque deux forces contraires, le courant paternel et le courant maternel. Elles sont là, dans un remous, dans l'intérieur de cette coupe, et cette coupe, ce n'est qu'une écume fumant tout le temps, des remous formés par deux courants d'un psychisme différent et d'une qualité différente qui ne s'accordent pas. Il n'y a rien de plus poignant que de saisir l'antériorité d'un être, c'est-à-dire ses parents, direct sans parler de ses grands-parents éventuels, sans remonter plus loin, rien que de trouver ses parents tels qu'on les voit d'eux-mêmes dans la vie, si on les a connus, mais qu'on les voit dans le thème. Si, dans un thème, vous avez la guerre entre le père et la mère, si entre le père et la mère, c'est la guerre, c'est la bagarre, c'est la bagarre complète. Ils sont là comme deux boucs aux cornes liées. Vous êtes tranquille. Le thème de l'enfant va montrer ça. Le maître de 4 et le maître de 10 seront absolument en guerre. Ça ne s'arrêtera pas. À moins que, sur la tête de cet enfant, les deux parents se trouvent être magiquement, pour l'enfant, lui-même, d'accord. Et au moins sur un sujet, ils sont d'accord, c'est pour le bien de l'enfant. Et qu'ils comprennent tous les deux en même temps quel est le bien de l'enfant. Alors à ce moment-là, dans le thème, on pourra voir que ces deux êtres sont en guerre, mais que pour ce qui est de l'enfant, il y a des accords. C'est prodigieusement intéressant. C'est d'abord prodigieusement intéressant. Et naturellement, c'est prodigieusement, troublant, parce que ça nous demande, ça nous pose un tas de questions sur ce qui constitue le plan actuel de la conscience en chacun de nous, la part proprement personnelle. Alors, voyez, Uranus et la Lune. Uranus, c'est le génie de l'individu. Uranus, c'est ce qu'il y a de plus unique, de plus essentiellement lui. Cet être qui vient au monde, qui dépend tant de son père et sa mère, et qui extrait tant de choses du père et de la mère, et dont les extraits du père et de la mère réclament des droits sur lui, ont des exigences, des prises sur lui. À telle enseigne que lorsqu'il est appelé à un certain comportement, tout d'un coup, c'est une entorse qu'il reçoit du côté paternel. Et c'est ce côté paternel qui sort à ce moment-là, lui. À tel enseigne que dans une autre phase, c'est une entorse qu'il reçoit du côté maternel, c'est une gaucherie spéciale, c'est un tour spécial. Pourquoi on reconnaît tout d'un coup toute sa mère devant lui, devant nous. Mais derrière tout ça, en arrière de tout ça, au fond, voilà Uranus. Alors Uranus, c'est ni le père, ni la mère. C'est lui-même. Et c'est là qu'il faut le trouver, le pauvre gosse. Lui, dans son essence, dans son essence, c'est là qu'il faut le chercher. Voilà pourquoi, dans un thème, si Saturne vous indique là où Saturne se trouve, là où va être votre équilibre et votre sentiment de conservation de vous-même, votre respect de votre durée, à tout prix, à tout craint, là où est Uranus dans votre thème, va surgir la protestation de votre originalité. Alors, si ça est vrai, voyez tout de suite ce qui se passe si dans un thème, vous avez la bagarre, l'opposition, lune-Uranus. Si dans un thème, vous avez l'opposition lune-Uranus, vous pouvez être certain tout de suite que le côté, la mère de l'enfant, vraiment la lune n'étant pas en 4 pour commencer, mais par exemple, prenez le cas extrême, mettez-moi une lune en 10 et Uranus en 4, les voilà en opposition. Eh bien, c'est du propre. C'est du propre, parce qu'alors, la lune en 10, c'est la mère. Mais qu'est-ce qu'elle va faire dans la 10e maison? Sa position naturelle serait la 4. Alors nous savons qu'une lune en 10 ne demande qu'une chose, c'est de mettre les à la fenêtre toute la journée et d'oublier la soupe. Les enfants peuvent marmailler et pleurer dans leur berceau et piailler et tout ce qu'on voudra et mettre le feu à la maison à l'intérieur, mais la mère aura tout le temps les à la fenêtre pour voir ce qui s'y passe. Ça. Et pour se faire entendre des commères en face. C'est le cas extrême. Voilà la lune en 10. Alors, quelle sorte de maman le type a-t-il? Alors, je vois une lune en 10, et attention, d'abord la lune en 10, mais opposition Uranus, alors le coup est fait, n'est-ce pas? C'est une mère qui n'a aucune espèce d'intérêt pour son foyer. Ne saurait pas qu'en faire. Et quand elle y vient, alors elle est tellement inadéquate. Il y a Uranus qui est là et qui attend, lui, qu'on lui serve un sanglier. Hein? Et cette lune revient de la foule à la 10e maison et elle vient faire le ménage en 4e maison. Bon, Uranus dit, écoutez, mes chers amis, au revoir, je suis un étranger. Ici, je m'en vais. Un Uranus en 4 fiche le camp de la maison très jeune. D'abord, c'est la bagarre tout de suite avec ce qui est dans la maison, à moins que ce soit une harmonie parfaite par aspect avec cet Uranus. Mais l'opposition à la lune, ça voudra dire que dans la psychologie, c'est ça qui m'intéresse maintenant, c'est pas le rapport seulement de l'homme avec ses enfants, l'enfant avec ses parents, mais c'est maintenant le cas de l'adulte, car dans l'adulte, il y a ses parents. Et dans l'adulte, la composition des parents va déterminer énormément la composition des partenaires dans la vie, de la compagne et du compagnon de la vie. Ça va avoir une déterminante formidable. Alors, quand vous avez quelqu'un qui a Uranus opposition à la Lune, il y a là tout un complexe vis-à-vis de la femme dans cet individu-là. Parce que son génie propre est contraire au féminin, contraire à sa mère, et contraire à l'élément maternel de sa nature. Contraire à l'élément maternel et l'élément féminin de sa nature. Voilà la Lune, position Uranus. Je sais que, pas toujours, parce qu'il y a tous les autres aspects à tenir encore en considération, mais qu'en principe, il faut aller chercher là ce qui sera appelé superficiellement un complexe dans cet homme, cette femme, face à la mère, pas au père, à la mère, la Lune. Par contre, si c'est un Saturne, position Uranus, nous pourrions dire complexe vis-à-vis du père. Vis-à-vis du père. Uranus, c'est vraiment le génie de votre essence. C'est vraiment, ça c'est ce que vous amenez vraiment d'avant cette vie. Ça c'est ce qui est lié avec, comment? Uranus à la pointe de 4. Comment? À la grande, il est maître de 4. Il est, naturellement, c'est un peu différent que s'il s'y trouve. Vous comprenez? S'il s'y trouve, il est terriblement fort. Il est terriblement fort parce que s'il s'y trouve et qu'il c'est encore le Verseau, il en est le maître à tous les points de vue. Mais c'est un fameux locataire à avoir, Uranus. Je vous donne ma parole que c'est un forme. Étudiez votre Uranus où il se trouve et quel est le propriétaire de sa maison et vous verrez ce que ça vous représente. Il mange tout. D'accord. Mais enfin, c'est parce que vous avez probablement un bon maître de cas. Comment? Vous avez de la patience. Ah oui, oui. J'ai entendu. Oui, mais puis j'ai de belles oppositions avec Neptune et Jupiter. Oui. Ah, mais oui, ça est vrai. Mais encore là, mais ça nous mènerait très loin. Et trop loin pour le faire sans des graphiques. Les oppositions qui sont verticales n'ont pas le caractère aussi, comment dirais-je, explosif et expansif que ceux qui sont horizontales. Un 7, par exemple. Un 7. Dans des choses alors de dilatation, je sais pas, parce que alors ça c'est l'action, c'est l'action, on se dépêtre de quelque chose, on en fait le tour. Hein, l'axe vertical, c'est plutôt le sel de la vie, c'est plutôt dans la qualité de ce genre. Mais, oui, Saturne et Uranus se font. Maintenant, c'est, je le rappelle, mitigé, suivant le maître actuel de la vie, suivant les bons aspects qu'il peut en avoir, mais gratter un peu dans la vie d'un être. Nous nous connaissons si peu, je demande à une femme, votre père. Naturellement, je vois très vite dans le thème si elle est plus proche de son père ou de sa mère. Ça se voit par aspect, bien entendu, mais ça se voit aussi par la position du maître de vie. Par exemple, c'est une affaire réglée. Si le maître de 10 se trouve en 1, on peut dire de la personne, 9 fois sur 10, qu'elle porte son père en elle. Et qu'il est... Pas vous? Vous avez le maître de 10 en 1? Mercure est le maître de 10 en 1. Et où est Saturne, alors, lui? Ah, alors, ça nous fait un joli renversement. Vous avez été proche de votre père?
J'ai plus connu mon père que ma mère, mais
j'ai été réveillée par exemple dans les cils
révolutaires de la chambre des parents. Ah, c'est agréable. Et divorce de mes parents. Et j'ai été vite réveillée là chez mon père, alors j'ai passé ma mère. Ma mère est naturelle, d'abord, mais mon père, j'étais là. Mais alors, désaccord. Et lui, une conjonction de signes.
Oui.
Saturne sur la pointe de 4. Et Mercure, l'air de 10, 1.
Il a figé ce Mercure.
Quadrature Saturne.
Ah, bien. Oui. Oui, vous aviez déjà. Voilà, déjà ça. Voilà, il y avait déjà ça, il faudrait encore y aller plus loin, n'est-ce pas? La Lune conjointe Neptune, et ce Neptune était quoi encore? Affligé?
Neptune.
Avez-vous l'impression que vous auriez été plus près de votre mère?
Pas.
Non, vous étiez une nature assez sauvage vous-même dans vos jeunes temps, n'est-ce pas?
Oui,
encore. Oui, oui. Oui, oui, oui.
Je ne sais pas parce que ma mère était tellement belle, complètement belle. Et si j'avais été prise par les idées de ma mère, je pense que c'était très belle ma mère. Je ne sais pas si ma mère va pu me prendre.
Bah, votre mère semble être une nature d'artiste.
Oui, oui.
Et votre père plutôt une rocaille.
Mon père, le viseur, le juisseur, le.
Oui.
Artiste aussi.
Oui.
Comme,
oui. Passons un instant. Ça, ce serait un thème intéressant à analyser, mais voilà, vous, à ce point de vue-là, mais, et surtout qu'il serait très complexe. Ça demanderait énormément d'habileté d'aller fouiller là-dedans sans forcer la vérité. Je prends notre cher ami, que vous l'appelez ami pour vous aussi, notre ami M. Koenigsherr, et une des croix de sa vie, c'est sa fille. Une femme de 22, 23 ans. Mon fils d'ailleurs aussi. Alors, la croix d'ailleurs pour sa femme et lui, car lui et sa femme sont très très unis. Et le reproche que les enfants font à leurs parents, c'est d'être beaucoup, à la mère, d'être beaucoup trop unie à son mari, au point de négliger, disent-ils, l'enfant, les enfants. Oui. Alors, il faut dire que dans le thème de M. Koenigsherr, le maître de cette, le mariage, se trouve en un, et que naturellement sa femme se moule sur lui. Tout naturellement, tout simplement, tout naturellement. Elle est son ombre. Elle n'est pas du tout une personnalité falote, ou grand Dieu, loin de là. Mais enfin, l'accord parfait entre eux. Et elle le suit tout naturellement. Elle suit ses idées, elle suit son tempérament, elle suit son mouvement. Quoique ça lui en coûte quelquefois, parce qu'il a dû aller en faire passer par des passages terriblement torturés, mais enfin, c'est comme ça. Alors, il me racontait des choses à propos de sa fille. Et il faisait des grands chagrins. Et il était cuisant lorsqu'il était ici en avril. Et alors, j'ai fait le thème de la fille. Et puis, j'ai pu lui dire, alors qu'est-ce que je vois dans le thème de la fille? Le maître de 10, Sagittaire vous l'a dit, de Jupiter en cancer, 28 degrés, en 5. Le maître de 4, c'est Mercure, c'est Gémeaux, 28 degrés du cancer aussi en 5. Mercure et Jupiter dans le même degré du cancer, vous comprenez, en 5. Il a le père, elle a son père et sa mère dans son cœur. Et au fond, c'est vrai, parce qu'alors en lui en parlant de sa fille davantage, c'est évident qu'elle aimait ses parents. Mais après tout, n'était pas d'une nature uniforme, cette fille. Elle avait ses contradictions de nature, elle en a une de formidable qui va être la bataille de sa vie, dans sa propre nature. Et c'est ce que je lui ai dit à lui. Et si je vous affirme, je ne vous sais pas. Je lui ai dit à lui, non, non, elle vous aime, seulement elle a à se battre avec elle-même, il y a des choses qu'elle ne comprend pas en elle-même. Et elle doit absolument trouver son indépendance, car c'est au prix de son indépendance, de sa vie absolument affirmée, par le travail, par son travail à elle, qu'elle va se sauver d'un certain piège, d'un certain penchant dans sa nature. Alors, je n'allais pas en dire davantage à ce moment-là, il était ici pour faire des conférences et pour parler autre chose, je veux dire, en tout cas, rassurez-vous, votre fille, quoique elle vous critique et vous juge de ne pas avoir ignoré, d'avoir suffisamment occupé les choses comme on les fait en Suisse, n'est-ce pas, rapportant le tricot tous les 8 jours exactement au doigt et à l'œil. Quoi qu'il en soit, elle vous aime. Et votre femme aussi. Et les deux, vous êtes. Et regardez l'union du père et de la mère pour leurs enfants. L'union que les deux ont pour l'enfant, car il disait l'autre jour, je disais à ma femme, écoute, quelle que soit l'attitude, c'est plus le nom de la fille, quelle que soit son attitude actuelle, il faut continuer simplement à l'aimer. On continue à l'aimer, quelle que soit son attitude, lointaine, distante, apparemment détachée, indifférente, critique. Continuons à l'aimer, voilà. Et la mère disait, oui, en effet, voilà, c'est Mercure, conjoint Jupiter, enfin. Et alors, tout d'un coup, il me sort cette phrase. Ben, il y a une chose que je lui reproche. C'est de ne jamais flirter. Elle a été psychanalysée, cette fille. Alors, malheureusement, il y avait un psychanalyste freudien qui habitait dans la maison, dans la villa. Alors ça a été du joli, ça. Alors ça a été contre le fils aussi, n'est-ce pas? Et c'est une psychanalyse qui consiste spécialement, c'est le psychanalyste qui devrait être psychanalysé, qui consiste spécialement à faire valoir, à faire que les enfants se réalisent en se mettant contre les parents. En se mettant carrément contre les parents. Comment? Mais naturellement que c'est mal fait. Notez que c'est une femme qui parle sur le marché. Comment? Enfin, voilà, c'est ça. Alors, vous imaginez, quand il revenait de l'étage supérieur à souper, il n'était pas à... Vous voyez, vous voyez le souper que ça faisait, le souper de famille, ce que ça pouvait être, cette histoire-là. Oui. Eh bien, voilà. Alors, il m'a dit, oui, n'est-ce pas... je lui ferai un reproche, si distant, si froid, etc. Je lui ai reproché en somme que le fleur pas. Oh, lui ai dit, vous allez bien. Vous touchez quelque chose de très délicat, c'est que précisément, ça ne l'est pas permis. Elle jouerait avec un feu terrible. Un feu tellement grave, que d'instinct, son Saturne en pointe de bronze, en position exactement son Pluton en pointe de 5. Ah, mais voilà. N'est-ce pas? Conjoint son Soleil en pointe de 5. Conjoint son Pluton. Alors vous imaginez qu'elle se ramasse sur son Saturne, qui reçoit des trigones de sa 6, etc. Dans tout le thème. Quoi. Mais alors vous comprenez qu'on voit, on voit l'appareil défensif, on sait qu'il y a quelque chose qui va, qu'elle va se rompre l'équilibre psychique, c'est ça que ça reviendrait à dire. L'instinct rompre l'équilibre psychique. C'était naturellement ça. Elle s'en garde d'instinct. Ça, je ne l'ai pas encore dit. Mais quand il m'a dit, oui, je lui reproche de ne pas fierté, je lui dis, je comprends. Et comme le lion est le maître de 6, je lui dis, est-ce que vous n'avez pas eu toujours une santé extrêmement délicate? Elle me dit, pas exactement délicate, mais elle vit uniquement par les nerfs. Par les nerfs? Car les nerfs, ça veut dire que c'est quand même Mercure, ce Mercure conjoint Jupiter dans le camp. Il ne changera jamais de signe, il changera de maison, ça c'est sûr. Il ne changera jamais de maison. Non, la vision est là. Comment? Ben, je vais vous dire un peu ce que j'en pense, en bref. D'abord, il faut établir définitivement que, quel que soit, que toutes les grandes planètes créent des climats psychiques, c'est entendu, et des courants, c'est entendu, ça va de soi, mais qu'en même temps, chacun de nous, individuellement, qui a ce dispositif, contribue sa parcelle. Ce courant est fait de gouttes d'eau et nous sommes une de ces gouttes d'eau qui fait ce courant. De la qualité dite opposition Uranus-Neptune, nous sommes cette goutte d'eau. Et que nous ne pouvons pas désindividualiser des dispositions planétaires en pensant que ça ne peut avoir affaire qu'à des collectivités ou surtout des collectivités plutôt que des individus. Il est évident que certains aspects qui a déclenché la guerre de 1914 a été un aspect collectif, c'est une affaire entendue, mais non, combien d'individus en ont souffert directement, individuellement, et ça n'a été connu que par leur souffrance, et ça a été fortement individuel. Donc il y a un lien inéchappable entre le climat général et les individus qui sont sous... dans ce climat, et qui constituent même des parties intégrantes du climat. C'est pas comme une pluie qui tombe sur l'homme, et l'homme peut y échapper dans une mesure. Il est la pluie, il est lui-même une partie de cette pluie qui tombe. Il est l'ensemble des nuages aussi. Il est tout ça, le nuage est plus que lui, mais il est là, il est tout mêlé. Enfin, on peut très bien le voir physiquement. Alors, je pense que l'opposition Uranus-Neptune, maintenant, voilà, c'est Uranus et Neptune. C'est une opposition d'un genre très spécial. Ça ne nous présente pas, ça n'est pas une schizophrénie, ce n'est pas une dichotomie, ce n'est pas une division de la nature, parce qu'Uranus, c'est une très grande et très noble puissance, bien entendu, et que Neptune est une autre encore plus grande. Elle est du même ordre, elle est d'un échelon plus grand qu'Uranus. C'est au fond une montée du ciel, Uranus-Neptune. Et quand vous êtes en opposition, c'est comme une montée de Parsifal au Graal. Voilà ce que c'est. Ça vous indique l'horaire, le temps qu'il faudra et tout ce qui devra se passer durant ce temps pour l'être qui est en jeu, c'est-à-dire le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qui alors eux sont concernés avec ce Soleil, eh bien pendant que Uranus va chercher le Graal, pour vraiment à ce moment-là achever quelque chose par rapport à des forces encore qui dépassent l'individu et qui ne nous concernent pas directement, et en même temps prennent en main les forces de l'individu, le Soleil, c'est une ascension du Parsifal au Graal. On peut dire que le Graal avance tout le temps, Neptune avance à sa vitesse propre, il est en 164 ans de faire son cycle, il avance à une vitesse qui est la moitié de celle d'Uranus, à peu près. Alors vous avez Uranus qui est derrière, et celui-là va comme ceci, et celui-là va comme ça, celui-là va comme ceci, celui-là va comme ça. Finalement, ils se rencontrent. C'est ça. Finalement, ils se rencontrent. Eh bien, quand ils ont l'opposition, on sait qu'il y a 180 degrés qui les séparent, et nous savons que là, voilà la distance majeure qu'il faut, et que par conséquent, en 42 ans, ils vont se rencontrer. Et voilà pourquoi, une des raisons, peut-être la majeure, pourquoi il a été si marqué parmi nos adultes aujourd'hui, de voir ce qui se passe quand on a 42 ans, 43, 44 ans. Ce n'est pas tellement l'histoire du retour d'âge, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas du tout une histoire pareille. C'est qu'il y a des puissances créatrices qui se dégagent dans des êtres. Dans le temps, il y avait un temps, dans les temps, surtout connu par la littérature, je ne veux pas placer maintenant ce temps, c'est pas si loin. Il était de coutume de dire qu'une femme, eh bien, et même un homme, prenait ses quartiers d'hiver à 40 ans, 45 ans, surtout la femme, n'est-ce pas? Et l'homme souvent aussi. Moi, j'ai entendu des Français il y a 20 ans, les Slovaques qui me disaient, oh, moi, j'ai pris mes quartiers d'hiver maintenant, vous savez, il n'avait pas même 50 ans. Ça. Oui. Eh bien, enfin, bref. Eh bien, c'est que vous aviez des gens là, et puis c'était une coutume d'une autre, mais c'était surtout la question, c'était un usage et une coutume d'une autre génération, plus ancienne. Nous ne parlons pas naturellement des bousculades de la guerre. Or, quand on y regarde de près, pourquoi est-ce que les hommes et les femmes d'aujourd'hui font si souvent l'expérience d'une nouvelle naissance? Et comment est-ce qu'on peut vraiment dire, comme ce médecin américain, que la vie commence à 40 ans? Ça. Mais oui, mais ça, oui, enfin, là autour, à une variante près. C'est que précisément, ce sont des gens qui sont nés sous l'opposition Uranus-Neptune. Et que quand Parsifal se rejoint le Graal, c'est qu'il y a eu un cycle dans le monde intérieur à vous-même, pas seulement de vous-même, mais dans le monde supérieur de vous-même qui s'est organisé et qui vous peut vous prendre en main d'autant mieux. C'est un moment capital dans le thème lorsque Uranus vient à Neptune. C'est un moment d'intégration colossale. Colossale, et nous le voyons bien avec tous ceux qui viennent, que je vois, qui ont Neptune à les derniers degrés des Gémeaux, ou les premiers degrés du cancer. Eh bien, je vous réponds que quand on voit Uranus arriver dessus, et à la suite, quel changement avec quelle nouvelle force, une nouvelle profondeur vient en nous. C'est énorme. Alors, on ne peut pas dire qu'Uranus est en opposition à Neptune et ne veut pas le rejoindre. Non, c'est une extension de conscience formidable, l'opposition. Ça représente une extension de conscience formidable, l'opposition. Ce sont des êtres qui ont une certaine vastitude dans les profondeurs d'eux-mêmes. Seulement, il est évident que pour longtemps, on ne veut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et il est évident que pour longtemps, on ne peut pas à la fois employer la maison que commande Uranus et la maison que commande Neptune. Autrement dit, on ne peut pas employer à la fois le poisson et le verseau. On l'emploie tour à tour. Tour à tour. Tour à tour. Et Uranus exige plus souvent l'emploi du verseau que Neptune emploie l'autre. Alors c'est assez logique, parce que quand vous avez l'opposition, ça c'est formel, quand vous avez l'opposition Neptune-Saturne, ben c'est tout de suite, vous n'avez rien qu'à dire. Sur cette vie-là, cette personne doit d'abord accomplir des devoirs extrêmement positifs et extrêmement matériels. Elle aura des charges, avant de pouvoir avoir une vie conventuelle, une vie intime, une vie mystique, une vie religieuse, une vie vraiment où elle pourra donner son énergie et son temps à des choses de cet ordre. Non, le devoir, le côté pratique sort tout le temps. Ce n'est pas que le côté pratique, c'est Marthe, si vous voulez, opposée à Marie, dans ce sens-là, mais une Marthe très diligente. Très diligente. Alors, si c'est Uranus, c'est de dire, c'est pas alors, c'est dire, bien maintenant, mais mon petit soleil, il te faut attendre, tu as des expériences à faire et tu as tout calculé. Le temps qu'il me faut pour rejoindre le Graal, c'est le temps qu'il te faut, toi, pour contribuer par ta présence à la vie de tout un nombre d'êtres et à ton temps. Et tour à tour, suivant la façon dont je peux tenir le manche de la poêle, je ferai ma part pour t'éclairer sur ta route. Ça nous mènerait très loin, cette combinaison Uranus-Neptune, si on voulait la prendre encore de plus haut. Mais enfin voilà, ça c'est encore un des grands aspects de notre époque. Et si vous y regardez de près, il y a des gens qui sont nés en 1900, en 1904. Vous voyez, ils ont donc maintenant 55 ans, 53 ans, 52 ans. Et ce sont des gens où c'est une pierre faite. Ceux-là ont eu la grande rencontre Pluton-Uranus. Uranus est arrivé à Pluton. Et alors, dans certains cas, c'est Uranus qui a craqué. C'est-à-dire, il y a eu une déchirure. Lorsque l'Uranus était très affligé dans le thème, il portait une trop grande charge. Quand il arrive à Pluton, eh bien, il y a un tas de choses qui sautent, il fait peut-être une maladie et il en meurt. Comment? Il tient le coup, seulement c'est un moment magistral. C'est un des moments les plus révélateurs de la psychologie des profondeurs, car généralement, lorsque Uranus, qui est opposition plutôt à la naissance, est obligé d'arriver à lui, et généralement il arrive à lui avant d'arriver à Neptune, ça c'est réglementaire, c'est dans l'ordre de l'affaire. Neptune en 1901 se trouve à 26 du Gémeaux et Pluton à 15, vous voyez, alors vous voyez l'ordre. Et comme Pluton marche plus lentement que Neptune, alors vous voyez l'ordre. Bon, eh bien, lorsque Uranus arrive à Neptune, ça ne, à Pluton, ça ne rate pas. Vous demandez à la personne. Vous posez la question comme ça. Alors, beaucoup de rêves dans votre vie? Vous rêvez beaucoup? Oui, pas mal. Bon. Cauchemar dans votre vie? Peu. Cauchemar quand même? Oui. Cauchemar périodique? Le même type qui revient dans le passé, dans votre jeunesse peut-être? Ou encore aujourd'hui? Oui, quelquefois j'ai eu le même cauchemar périodique. Hein? Cauchemar périodique. Elle est donc capable de cauchemar périodique. De cauchemar, primo. De rêve, d'abord. Tout le monde rêve, mais on ne le sait pas. Ce qui veut dire qu'eux le savent. Alors, rêve d'abord. Bon. Alors, cauchemar, donc cauchemar, c'est logique. Allez, cauchemar périodique. Ou alors, à ce moment-là, je commence à tenir la clé du thème. C'est pas plus difficile, au fond, que ça. Je commence à tenir la clé du thème. Parce que pourquoi est-ce que ces gens sont nés? C'est pour se sortir d'une certaine structure psychique. Et ils se battent avec. C'est une évolution qui se fait là sur cet axe-là, et tout le reste va servir ça, y compris la santé du corps. Car c'est un peu invraisemblable, c'est que quand on voit qu'une femme doit être la séductrice et la sirène de bien des hommes, mais la vraie sirène, qu'elle doit être ce qu'on appelle la sirène, n'est-ce pas? Eh bien, je vous réponds que quand c'est indiqué comme ça, et ça se remarque très souvent lorsqu'on n'a plus de temps pour Neptune, la Lune, eh bien, je vous réponds que cette femme a une santé de fer. Elle aura une santé de fer, et elle aura la beauté, elle aura tout ce qu'il faut. Ce ne sera pas une machine en rayon, en guenille et une physique comme la dame au camélia qui, à propos, avait un Pluton quelque chose de paumé. Ah oui, Paul Rayet avait le thème. Attendez voir, un jour, je suis arrivé à Paris l'année dernière, il me dit, écoutez, vous gars, voilà une enveloppe, c'est le thème de Marie Gauthier. Il me dit, je vous en ai deux là-dedans. Regardez le premier, c'est le thème sans Pluton. Regardez-le ensuite avec Pluton, vous aurez tout compris. Oui. Bon? Je l'ai, c'est vous ne l'occupez pas.
Alors,
Pluton donnerait
la séduction?
Ah oui. Suivant la position? Ah oui, mais naturellement. Ah oui, oui. Suivant la position, dans l'ensemble. Oh, oui, oui, j'ai entendu.
Il y a beaucoup de stars
avec
vous, hein?
Comment?
Il y a beaucoup de stars avec
vous. Mais naturellement, mais c'est un magnétisme phénoménal, ça. Pas d'erreur, c'est un magnétisme formidable, ça. Écoutez, les yeux verts, les femmes aux yeux verts. à des yeux de mare, M-A-R-E, n'est-ce pas, les yeux de mare. Et comment? Oui, ça, oui, c'est sûr, l'œil méphistophélique. Vous savez, le problème, un des plus beaux Plutons que j'ai jamais connu, celui qui m'a permis d'énormément suivre ça dans le détail, c'est M. George Barnes en Californie, qui en général est un homme très bon et très doux. Enfin, très doux, c'est pas le mot, mais enfin, il est beau. Et très honnête, alors ça, implacablement. Mais alors qu'il pouvait avoir un petit coup de bascule en 5 minutes, en 5 minutes, les yeux doux, clairs, et c'était vraiment Méphisto devant. Vraiment le type classique, pas de théâtre, mais classique, du sardonique. On avait vraiment un démon de voir dans ses yeux. C'était ahurissant à voir. Ce changement se faisait comme ça. Et puis, ça se passe. Et alors à ce moment-là, il disait des choses, faisait des choses qu'il ne se rappelait pas après. Et si on lui avait cité, il aurait dit, comment? Moi, j'ai dit ça. Or lui, il avait Pluton en première maison, en taureau conjoint Jupiter en première maison, à 1 degré, et il avait par surcroît Saturne en taureau en première maison, mais pas dans l'aspect, au début du taureau, et Neptune conjoint Saturne en première maison. Alors, vous aviez ça, tout ça en première maison, à la fin de la première, Pluton Jupiter. Oh, quel... Alors, c'est quand il se sentait comme ça, de bonne humeur, il disait, me and God. Moi et Dieu. Et moi, et il ajoutait toujours, moi d'abord. Et il disait ça en souriant, mais il n'y avait pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de fumée sans feu. Oui. Oui, revenons au principe masculin et féminin dans le thème. Ce n'est pas encore assez, elle ne va pas toucher ça dans les aspects. Donc, pour commencer sur le rapport, nous sommes bien au clair sur cette question maîtresse de psychologie. C'est que nous sommes... Il est évident que dans un thème... Lorsque la progression du soleil vient à la Vénus natale et que cela entraîne la rencontre d'un être, d'une femme, d'un homme, et que cela devient l'amour de la vie pour les deux, ben il est évident que tout est organisé dans le reste du thème pour que l'équilibre des proportions masculines et féminines dans les deux êtres soit correspondante et établissent la polarité voulue. Car si vous êtes trois quarts masculin, il vous faudra quelqu'un qui soit un quart féminin. Il y a rien à faire, vous avez tout le temps cette polarité, ça jouera toujours comme ça. Et si une femme est deux tiers masculin, eh bien il faudra que l'homme soit simplement un tiers masculin, autrement ça ne jouera pas. Ça ne jouera pas. On arrondit toujours. Le couple, c'est toujours un cercle dans lequel il y a la part. C'est toujours le cercle et il y a la part du masculin et du féminin se trouvera représentée. Alors, ça évolue, bien entendu. L'homme devient plus masculin, disons, ou plus féminin. Généralement, normalement, plus féminin. Et la femme devient plus masculine. Mais du moment que l'homme devient plus féminin, alors il trouve ça très naturel que sa femme devient plus masculine. Ça se combine tout le temps. Et les mariages qui sont vraiment des mariages pleins, à notre pleine, riches, étoffés, ce sont des choses, et donc heureuses, ce sont justement des choses dont les progressions du thème ont marqué ça. Mais, pour revenir à cette question-là, un être peut avoir la progression du soleil sur sa Vénus et amener à avoir l'amour de sa vie avec tout ce que ça comporte dans l'équilibre encore du principe féminin et masculin en eux. Il y a cette polarité toujours, mais mais toujours est-il que chacun a son élément féminin qui va être marqué par les planètes féminines du thème. Quand vous avez toutes vos planètes, par exemple, comptez dans vos planètes. Je ne le fais presque plus aujourd'hui parce que c'est une chose que je fais d'instinct. Mais un temps, je faisais toujours le compte des planètes en signe de féminin ou en signe masculin. Ah, je vous réponds, quand une femme a 9 planètes en signe masculin, on s'en aperçoit. N'est-ce pas, mademoiselle Scampucci? Hein? Oui. On s'en aperçoit. On s'en aperçoit bien. Et quand on a 9 planètes dans les signes féminins, on s'en aperçoit aussi. Alors, et comment? N'est-ce pas? Voilà. Il y a ça. C'est des divisions d'éléments. Oui, oui, naturellement, c'est embêtant. Oui, alors, il a été mis d'abord. quand il a 9 planètes en signe féminin, on peut dire que la femme peut se servir de lui comme... elle est un radeau qui flotte sur l'eau. Parce que c'est fatal. Si ce bonhomme-là est marié, vous êtes sûr de votre affaire. Sa femme aura probablement notre planète en signe de terre. Ça sera alors complet, vous en prenez. Les statistiques entre signes de feu et d'air et dans les signes de terre et d'eau, par exemple. Machine pareil. Dites donc, vous avez cette machine qui fonctionne. Ah ben, ça va être pas banal, ça n'entend certaines parties de ces conversations bâton rompu. Comment? Oui, enfin, on peut l'effacer très facilement. On n'a qu'à se répéter. Mademoiselle Lems, quelques remarques intéressantes au sujet de cette question des deux sexes en chacun de nous?
Non. C'est assez curieux, parce que je pense qu'on peut le rapporter à ce qui est subi
aujourd'hui. Ce qui est subi? Ah oui. Oui. Oui, oui. Mais le rendez-vous d'un homme avec le destin va toujours, avec le destin féminin, disons, ça va toujours être selon la polarité, selon l'équilibre du masculin et du féminin en lui-même à l'époque. Comment ?
Qui est-ce qui attaque ? Il y en a qui attaque.
Il y en a qui attaque. Oui, oui, il y en a un qui attaque. Quelquefois, ils attaquent simultanément. Enfin... Alors, si c'est perdu, c'est que c'est dans le thème aussi que c'est perdu. Vous comprenez, c'est une affaire réglée, ça. Tenez le thème que vous allez avoir au tableau noir lundi prochain. Cette femme a Vénus Bélier. Elle l'a en 4. Elle a sextile à son Pluton en 7 et carré sa Neptune en 7. Mais sextile le Pluton en 7. Eh bien, c'est une Vénus Bélier. Eh bien, voulez-vous savoir que pendant 5 ans, elle a aimé un homme sans jamais le lui dire et que jusqu'à ce jour, il ne le sait pas. Pardon?
Pourquoi est-ce qu'elle a mal dire? La femme fait aussi bien.
Mais il y avait quelque chose de plus fort qu'elle?
Ça, c'est
la Vénus Bélier sextile à Pluton. Oh, je parle sextile, ça aurait dit l'autre terme. Elle est sextile de Pluton. C'est le sextile. Ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Vous pouvez marcher à fond avec sur cet aspect-là. Ça ne marche jamais. Ça. D'ailleurs, Vénus Lion, c'est la même chose. Vénus Lion, elle est fière. Elle ne veut pas être blessée. L'autre, c'est le risque. C'est le risque dans le Bélier. L'idée bélier, c'est le risque. Dans l'autre, c'est la dignité. La lion, c'est la dignité qui est en jeu. Eh bien, alors elle, ça, il y a eu après une progression du soleil sur son Pluton. Alors ça, l'amour de ce qu'elle a eu secrètement pour un homme qui n'a jamais su, n'est-ce pas, pendant 5 ans, ceci, la conjonction à son Pluton est arrivée après ce sextile. Après ce temps-là, après. Alors à ce moment-là, il y a eu le grand patatras. C'est en pleine guerre, c'est Nice, c'est 42, c'est la résistance, c'est les noyaux de résistance. Et là, elle a connu une crevaison totale, n'est-ce pas? Alors là, il y a une liaison avec un homme, etc., etc., qui était assez logique, ça. Pluton en 7, et on pouvait savoir même que très souvent, Il pouvait y avoir une bagarre militaire, et en effet, ça a été mêlé complètement aux événements. Voilà. Mais voilà le sextile. Voilà le sextile de Vénus à Pluton, c'est ça. Alors maintenant, elle est sous le coup d'un Uranus transitant carré sa Vénus, et renforçant le exactement le carré de Neptune. Vous comprenez que il y a cette idéalisation au-delà de ce monde qui maintenant prend le dessus sur tout le thème. Oui. Qu'est-ce que vous disiez? Ah oui, cette question de polarité, oui, oui. Qu'est-ce qui est parqué? Mais brûlez les étapes. Si vous réussissez, c'est qu'il s'était écrit. Mais brûlez donc, Seigneur Dieu. Et puis, si vous employez votre jugeote, allez, faites l'inventaire de toute la situation telle que vous la voyez à un moment donné. Peut-être demain, vous la verrez tout autrement, mais sur le moment, vous la voyez comme ça. Le moment vous paraît propice. Tout semble être conjuré pour que vous puissiez vous exprimer. Eh bien, exprimez-vous. Comment? Ah, il y aura une erreur. Le bonhomme, au lieu de venir au rendez-vous, aura pris la grippe et il aura mangé des asperges, des poissons pourris ou quelque chose. Il y a toujours quelque chose. C'est absolument invraisemblable comme ça, je vous dis ça. C'est n'y pas croire. Vraiment n'y pas croire. Il y a des moments, je ne peux pas y croire, mais c'est effarant. C'est effarant. Alors, vous avez un médecin qui est penché sur la guérison d'un malade. S'il avait, disons, la pénicilline, pour dire, enfin, un remède radical sous la main, le cas sera guéri en 3 jours. Parce que, voilà, mais malheureusement, il n'a pas le remède sous la main. Alors, il ne peut pas le guérir en 3 jours. Il se trouvera après qu'il y avait des raisons pour lesquelles il ne fallait pas qu'il fût guéri en 3 jours. Tout ça se tient, n'est-ce pas? Alors, d'une part, on voit le zèle que nous avons pour restaurer le corps humain, de trouver une meilleure connaissance du corps, d'avoir les meilleurs médicaments, etc., etc. Et il faut bien se dire que la libération de certaines maladies est aussi en coordonnée à un autre dispositif du destin dans nos rapports humains. Tout ça se tient à nouveau. Car vous êtes tranquille, vous ne mourrez jamais avant que votre dernier rendez-vous avec le destin ait eu lieu. Il n'y a rien à faire. C'est bien comme ça que ça se passe. Oui. Un des aspects les plus clair, plus net, plus tranchant du rapport masculin-féminin en nous-mêmes, c'est le rapport soleil-lune, bien entendu. Le rapport soleil-lune. Voilà pourquoi l'importance du premier quartier. Si la lune est en premier quartier, il est évident que si vous êtes un homme, vous avez besoin de vous adosser, vraiment le mot adosser, accouder à l'élément féminin. Vous écoutez vos émotions. Et alors quelqu'un va représenter cette émotion, ce sera une femme. Qui correspondra exactement à cette formule-là, à son propre thème. Si au contraire, alors d'instinct, vous allez vers une femme qui sera maternelle, qui sera le type à materniser ce soleil, à être son soutien, à le vitaliser, à l'animer, et comme elle est en premier quartier, à lui dérouler le tapis de la vie devant lui. Mais s'il fait le contraire, si c'est soleil, carré, lune, et que c'est donc le troisième quartier, l'homme n'aura pas du tout besoin de l'élément féminin de la même façon. Il aura besoin de lui, oui, mais pour le voir le suivre, pour le voir lui s'appuyer, lui l'élément féminin, s'appuie. Oh oui, il a besoin de l'élément féminin. Mais il faut que l'élément féminin s'appuie sur lui. Il a besoin, il a dit, ben, qu'est-ce que je fais seul? Seul? Je pourrais vivre seul. Mais bien, pourquoi je pourrais vivre parfaitement seul? Je fais mon propre foyer. Ouais, mais je veux une femme. Je veux donner ça à une compagne, voilà, etc. Très bien. Mais c'est parce que c'est lui qui l'amène à elle. C'est contre lui qu'elle va s'adosser. Pas lui contre elle. On pourrait dire dans un certain sens que c'est l'aspect des sultans de Turquie, ça. Un soleil carré la lune, ça signifie toutes les concubines autour du soleil. Un aspect super masculin, soleil carré la lune. C'est le troisième quartier de la lune. Ah, là, c'est l'opposition, alors. L'opposition ? Vous pensez que... Oh non, quand même, vous ne voulez pas dire, vous auriez trop de contradictions dans des thèmes, que l'opposition soleil-lune veut dire toujours la guerre entre les deux sexes ?
Non.
Pas ça. Mais basculer dans la personne même quand son élément féminin est masculin. Oh oui, on s'est entendu. Basculade, oui, certainement. Ben, c'est la lune, et heureusement qu'elle court très vite, cette espèce de crapaud. Alors, elle peut réparer ses gaz, c'est vrai qu'elle les refait plus vite aussi. Elle peut réparer ses terres, mais il y a quand même cette synthèse qui se fait. La progression de la lune en progression secondaire est une chose capitale, et elle aide beaucoup à refaire les choses. Mais c'est les grandes planètes. Quand celles-là sont en guerre, en dispositif. Je veux finir ce soir cette question. Vous auriez quelque chose à demander, M. Dupuis ?
Non,
du tout. Je voudrais dire encore quelque chose à propos de... Parce que c'était maintenant, ça m'a échappé. Bon, c'est curieux, ça. Le dispositif des aspects. Bon, ça m'a échappé. Alors, un blanc total qui m'est venu là. Qui ne le cherche pas, ça reviendra tout de suite. Il ne faut pas avoir l'air d'en avoir besoin, alors ça revient. Voilà l'élément féminin, c'est ça.
Ouais. Pas toujours, monsieur. Oui.
Comment ?
Pas toujours. Pas en fiche prenant.
Ben, c'est l'élément féminin dans les femmes aussi. C'est l'élément Virgo que nous ne commandons pas, mais qui nous commande. C'est là bien la différence entre le Gémeau et la Vierge. C'est que le Gémeau, nous commandons le mental. Dans la Vierge, nous ne commandons pas. C'est lui qui nous commande. C'est lui qui commande au mental. Pardon ?
Les deux sont conjoints.
Quoi ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Quand il y a le maître de la Vierge dans les Gémeaux, il trouve dans les Gémeaux.